signe des temps, Marc Wetzmann.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le 21 septembre dernier, l'artiste plasticien Stéphane Simon, invité par l'UNESCO, a exposé plusieurs de ses sculptures, dont deux nus masculins inspirés de la sculpture grecque antique, a dû couvrir ses statues d'un cache-sexe, un string dans un cas, une bande allongée pour l'autre, cela à la demande de l'UNESCO et afin, je cite, de ne pas choquer certaines sensibilités. Le mois suivant, presque jour pour jour, la philosophe Sylvia Nagasinski a dû annuler sa visite à l'université Bordeaux-Montaigne sous la pression de groupes LGBT opposés aux positions de la philosophe, jugées réactionnaires, transphobes et homophobes. Fin octobre enfin, sous la pression cette fois de l'intersyndicale de professeurs en lutte contre l'islamophobie, c'était au tour de Paris-1-Sorbonne d'annuler les journées de formation continue sur la prévention de la radicalisation, montées par le journaliste Mohamed Sifaoui et l'historien Pierre Vermeeren en collaboration avec la Grande Mosquée de Paris. C'est pour dénoncer ce climat que le ministre Jean-Michel Blanquer a récemment évoqué un nouveau maccartisme. Au nom de la décence et de l'éthique, jette-t-on un voile sur le débat public dans les universités françaises ? Alors on va dans le climat actuel et en attendant la manifestation de ce dimanche contre l'islamophobie, on va se consacrer dans cette émission au dernier exemple, ce qui s'est passé à la Sorbonne, avec pour en parler aujourd'hui Georges Haddad. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'université de mathématiques et actuel président de l'université Paris 1, Sorbonne. Oui. Mohamed Sifaoui, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste. Vous avez vécu la guerre civile algérienne comme journaliste. Avant de venir à Paris, où vous avez publié nombre d'ouvrages, dont beaucoup sur l'islamisme, et pas seulement, Combattre le terrorisme islamiste, Ben Laden dévoilé, Éric Zemmour, une supercherie française, Histoire secrète de l'Algérie indépendante, et bien d'autres. Sandra Laugier, bonjour.
Bonjour.
Vous m'entendez depuis Berlin.
Oui, très bien.
Vous êtes philosophe française, oui. Vous travaillez sur les questions de philosophie du langage, de philosophie des sciences, de philosophie morale, de philosophie politique et de genre. Vous êtes professeur de philosophie à l'Université Paris-Sorbonne et directeur adjointe de l'Institut des sciences juridiques et philosophiques de la Sorbonne. Et Philippe Reynaud, enfin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue, professeur des universités en philosophie politique, et vous êtes considéré comme un des spécialistes français du libéralisme. Vous avez écrit une bonne trentaine de livres, parmi lesquels La politesse des Lumières, Emmanuel Macron, Une révolution bien tempérée, et cette année, vous publiez La laïcité, histoire d'une singularité française.
Une trentaine, ça, je crois que
c'est trop,
une erreur
c'est
de
trop
Wikipédia.
Ça, d'accord, bon, très bien, ça m'apprendra.
Disons une dizaine.
C'est déjà pas mal. C'est beaucoup. Oui. Donc alors, la Sorbonne, qu'est-ce qui s'y est passé? Je vais résumer en deux mots les faits, parce que les versions divergent énormément entre les différents acteurs, entre vous deux, Georges Haddad et Mohamed Sifaoui. Ce qu'on sait des faits, c'est que le 21 et les 22 novembre devait avoir lieu une formation payante intitulée « Prévention de la radicalisation, compréhension d'un phénomène et détection des signaux faibles ». Une formation à destination à l'origine des cadres de la fonction publique, enseignants, policiers et militaires, mais aussi élus, avocats et dirigeants d'entreprise, que l'intersyndicale des professeurs a demandé la suspension de cette formation, qui par son seul intitulé apparaissait comme très problématique, je cite l'intersyndicale, dans le climat national délétère marqué par une forte stigmatisation de la communauté musulmane. Et vous, Georges Haddad, vous avez entendu cette réclamation intersyndicale. Vous avez décidé de suspendre ces journées de formation pour faire taire les rumeurs. Et vous avez déclaré au Figaro, je crois, il n'y avait eu aucune approbation des services centraux de l'université à cette formation.
Oui, eh bien, je le confirme, cher monsieur. Et d'abord, il ne s'agissait pas d'un débat universitaire sur ces questions fondamentales, mais d'une formation courte de 2 jours, payante, il faut le savoir, payante, et qui initialement avait été faite et montée, monsieur Sifaoui en était un participant, hein, à la demande de la mosquée de Paris et de son recteur, l'honorable Dalil Boubaker. Mm-hmm. Donc j'avais rencontré, c'est la deuxième fois que je rencontre Monsieur Sifaoui. Il sortait du bureau de Monsieur le recteur, Dalil Boubaker, et j'étais moi-même accompagné de mon directeur de la formation continue, Pascal Lévesque, et d'un collègue. Or, nous avons de très très grandes relations, très profondes, avec la mosquée de Paris, à qui je rends hommage aujourd'hui, dans le cadre de notre DU, diplôme d'université, connaissance de la laïcité. Et ce DU est approuvé, reconnu par l'université et par tous ses conseils. Il est même diplôme. Il s'agissait là donc d'une petite formation de 2 jours, payante, à la demande de la mosquée de Paris, et qui était destinée en octobre, ça n'a rien à voir avec celle que vous mentionnez pour le mois de novembre, qui était destinée justement à former. Oui, il y avait une formation initiale. Moi, je ne connaissais que cette formation prévue pour des acteurs de la mosquée de Paris, à la demande du recteur et de la mosquée de Paris, qui est un des grands partenaires de Paris. Les récriminations ont concerné une autre formation qui, semble-t-il, dupliquait la première et adressée à un autre public, toujours payant, bien sûr, hein, toujours payant, de 2 jours, comme la première initiée. Et là, à partir de là, il y a eu cette montée de récriminations de l'intersyndicale, etc., avec des mécontentements. Et j'ai considéré qu'il était de mon devoir, non pas en tant que Georges Haddad, mais en tant que président de l'université, de calmer le jeu. J'ai immédiatement appelé le recteur de la mosquée, Dalil Boubaker, pour lui expliquer que les deux formations étaient suspendues, le temps d'une réflexion, pour essayer de comprendre et de calmer les esprits.
Alors, Mohamed Sifaoui, votre version?
Alors, je tiens d'abord à dire que moi, je n'ai pas de version, j'ai des faits.
D'accord.
Et ces faits, puisque visiblement, on cherche à me faire passer pour un menteur, je vais les publier tous sur les réseaux sociaux. Les faits sont les suivants, factuellement. Le 4 octobre 2017, il y a 2 ans, l'un de vos collaborateurs m'écrit un message électronique dans lequel il m'informe que la Sorbonne Paris 1 souhaiterait monter un module de formation continue, de prévention à la radicalisation, et qui souhaiterait que ce soit fait autour de la modeste expertise qui est la mienne. Et il me propose un rendez-vous. Et sur cette base, nous allons nous rencontrer en octobre 2017 une première fois. Et votre collaborateur, dont je ne vais pas citer le nom puisque vous le connaissez, puisque nous nous sommes vus aussi en sa présence, va me dire de monter un programme sur 2 journées qui sera destiné au grand public, aux fonctionnaires de l'État et à tous ceux qui devraient être formés à la question de la prévention de la radicalisation et qui seraient intéressés par cette formation. Donc à partir d'octobre 2017, j'ai réfléchi, j'ai travaillé sur un programme et au lieu de répondre en disant « je serai le seul à prodiguer cette formation », j'ai fait une autre proposition, c'est de monter une équipe pluridisciplinaire. Je me suis dit que ce serait d'abord plus humble, plus juste et plus conforme à la réalité du problème auquel nous faisons face. Car le problème de la radicalisation, et plus précisément de l'islam politique, parce que vous savez comme moi que la radicalisation, même si vous estimez qu'elle doit concerner d'autres aspects, et elle doit concerner d'autres aspects, la préoccupation aujourd'hui des Français, c'est de comprendre la radicalisation islamiste. Et la radicalisation islamiste, elle est nourrie par une matrice idéologique qui est l'islam politique, en gros, pour faire simplement les choses. Pendant toute l'année 2018-2019, donc j'ai travaillé, j'ai contacté des personnes, on a convenu d'y adjoindre Pierre Vermeuren, qui est un des professeurs les plus compétents en la matière d'histoire arabo-musulmane, et d'autres personnes que j'avais contactées moi-même, dont des magistrats, des magistrats antiterroristes, des avocats et d'autres universitaires, dont un chercheur d'ailleurs, ingénieur de recherche du CNRS sur les milieux islamistes. Donc j'ai tout fait pour que cette formation revêt, je dirais, un caractère de sérieux et un caractère scientifique et universitaire en mêlant un groupe composé d'empiriques et de scientifiques. Quand je dis empirique, passez-moi l'expression, c'est pas Jojo du coin, parce que votre serviteur a d'abord une formation universitaire et après, c'est un peu oublié dans 32 ans de journalisme qui ont été consacrés dans l'étude et l'examen de terrain de l'islam politique. Et à partir de là, il a été convenu en juin dernier d'étendre cette formation.
C'est au moment où je vous ai rencontré. Vous sortiez de la mosquée
absolument.
De Paris, c'était notre première rencontre.
On s'était vu et vous étiez très content. C'est ce que vous m'aviez dit, en tout cas, je ne sais pas si mes souvenirs sont bons, en tout cas si vos souvenirs sont aussi bons que les miens. Vous m'aviez dit que vous étiez très content.
Nous n'avons pas les mêmes souvenirs,
non,
monsieur.
C'est pas grave.
Ne mettez pas un qualificatif sur les souvenirs des uns et des autres.
Monsieur le Président, on va faire parler les faits.
Non, mais je tiens à répondre à ce qu'il a dit.
Parce que si j'avais su que cette formation était orientée vers l'islam,
ou l'islamisme, etc.
Donc vous ne dirigez pas votre université, en fait. Vous ne la dirigez pas.
Mais vous n'avez pas à me donner de leçons. J'ai une université de 47 000 étudiants, 2 000 professeurs. Vous croyez que je vais suivre toutes les petites formations non diplômantes qui ne passent pas par les conseils. Je l'aurais interdit.
Georges Haddad, j'ai une question quand même. Pourquoi est-ce que vous auriez interdit une formation spécifiquement sur l'islam?
Parce que le rôle de l'université, ce n'est pas de stigmatiser ou de cibler sur un point précis. L'université doit prendre de la hauteur. Elle est là pour aborder des questions avec objectivité, y compris dans les cas particuliers. Moi, je pense que la Sorbonne aurait mieux à faire qu'à organiser une grande réunion sur la radicalisation dans tous ces États, abordant la radicalisation islamiste, bien sûr, mais d'autres formes de radicalisation.
Il y a deux mêmes questions. La formation figurait dans le catalogue officiel de la Sorbonne.
Non, c'est pas passé par les conseils. C'est la formation continue qui a eu cette liberté de le faire. Parce qu'elle n'est pas diplômante.
Le catalogue officiel de la formation figurait cette formation sur deux pages.
Il n'y a pas de catalogue officiel. Il y a un catalogue qui est mis en état par le directeur de la formation continue.
Le seul
catalogue officiel, ou les seules parties officielles du catalogue, ce sont les formations approuvées par les conseils centraux de l'université. Cette formation dont vous parlez, qui n'est pas une formation, c'était une forme de débat d'information sur ces questions, n'est pas passée par les conseils centraux. Enfin, elle n'est pas diplômante.
Je vais donner la parole à Sandra Laugier.
Vos problèmes internes, si j'ose dire.
Il y a quand même une question incroyable, c'est que vous n'êtes même pas d'accord sur les dates. C'est-à-dire que vous, Georges Haddad, vous dites que cette formation avait commencé en juin.
Sur l'honneur, je ne l'ai apprise que vers le mois d'octobre.
Mais ni sur les dates, ni sur l'origine.
Le 10 juillet dernier, je mets à votre disposition un tweet de Paris 1, formation continue, qui annonçait un module de prévention de la radicalisation dans lequel participent, entre autres, Mohamed Sifaoui, des magistrats, des spécialistes, etc. Le 10 juillet dernier. Oui. J'ai la capture d'écran, je la mets à votre disposition.
Avec grand plaisir.
Le 10 juillet dernier,
votre institution,
le 10 juillet dernier, l'institution que vous dirigez, visiblement, annoncez au grand public qu'il y a une formation à venir. Restez connectés. Je cite. En octobre, vos collaborateurs m'ont remis le document officiel, le catalogue officiel de la formation continue qui, en page 110 et 111, si mes souvenirs sont bons, et je crois que mes souvenirs sont bons, sur deux pages, donnez le programme. Le programme, on m'a donné un canevas pour le rédiger. Sur deux pages, c'est moi qui l'ai rédigé en entier, qui a été validé par vos collaborateurs. J'ai fait valider chaque étape, les noms des contributeurs, les noms des participants. On a arrêté les dates, on a arrêté l'idée qu'il fallait effectivement commencer, c'était votre souhait, semble-t-il, par la mosquée de Paris les 29 et 30 octobre.
C'était pas le mien, c'est la demande du recteur d'Ali Boubacar, qui est un homme très honorable.
Ne voyez pas de la malice dans chaque propos.
Qu'est-ce que ça change?
Les 29 et 30 octobre, il y avait une session avec la mosquée de Paris. En novembre, il y avait une autre session dans laquelle, d'ailleurs, y compris des gendarmes.
Vous voyez bien qu'il y avait deux sessions prévues.
En décembre, il y avait une session qui était prévue. En février, il y avait une session, et je vous dis les dates de tête encore une fois, et en mars, il y avait une session qui était prévue. Et celle qui était mentionnée sur le catalogue, c'était les sessions de novembre et c'était les sessions de mars, parce que celle-ci, me semble-t-il, était fermée. Il y avait plus de 20 ou 25 inscrits, ou en tout cas demande d'intérêt. C'est pour ça qu'elle figurait comme date arrêtée. Donc, si vous voulez, mettez-vous un peu à ma place, je ne vous ai rien demandé. Je vous ai jamais approché.
Moi, j'ai
des mails au nom de la Sorbonne. Vous m'avez rencontré les yeux dans les yeux. Vous m'avez dit que vous m'avez dit que vous appréciez mon travail, que vous étiez plutôt content. Et là, vous insurgez sur le fait. qu'on parle de l'islam. Moi, je ne suis pas connu pour parler du hooliganisme. Moi, ça fait 32 ans que je parle d'islam politique. Quand vous m'avez croisé, entre autres, vous m'avez croisé, vous, directement, votre directeur des formations continues m'a croisé à plusieurs reprises dans l'enceinte de l'université, dans les bureaux de l'université, et quand il me croise, il est tout aussi content que vous. Donc, si vous voulez, c'est très simple. Le jour où vous m'avez vu, à la mosquée de Paris, si le fait d'aborder la question de l'islam politique vous posait problème, vous l'aurez posé ce jour-là. Or, le jour où vous me voyez les yeux dans les yeux, vous êtes plutôt content de me serrer la main.
J'étais ravi de vous serrer la main.
Attendez, je vais vous rajouter, en septembre dernier, je vous ai envoyé une invitation. D'accord? Parce que vous saviez qu'on allait collaborer ensemble.
Vous m'avez même envoyé un livre.
Je vous ai envoyé une invitation pour que vous veniez à une soirée de lancement de mon dernier livre sur les frères musulmans.
Je ne suis pas venu.
Auquel vous avez répondu. Si vous ne connaissez pas, parce que vous semblez dire que vous me connaissiez à peine. Si vous ne connaissiez pas, vous n'auriez pas répondu.
Combien de fois vous ai-je vu physiquement, Une fois, combien de temps, s'il vous plaît. Non, écoutez, je vais arrêter le débat.
Il y a des questions auxquelles il faut répondre.
Mais j'essaye de répondre.
On va d'abord donner la parole à Sandra Logier une seconde.
Sandra Logier, vous avez entendu
ces 20 minutes d'engueulade. Pour parler franchement, donc vous êtes à la Sorbonne, vous avez.
Je suis en train de prendre la parole parce que je pense qu'on perd un peu de temps à essayer de refaire une enquête policière ou digne d'un magazine télévisé sur le déroulement de ces faits. Hein. Je crois que c'est finalement pas ce qui importe.
Évidemment,
il y a eu certainement des malentendus, des demandes qui ont été faites, mais il faut vraiment se rendre compte, et ça a été dit par Georges Haddad, que de toute façon, c'est vrai que la formation continue, c'est un domaine spécifique de l'université, où on lance des formations qui ne sont pas en fait validées par la communauté universitaire telle qu'elle est réunie dans ce qu'on appelle les conseils centraux. Hein, et donc, c'est quelque chose qui, effectivement, s'est organisé sans que la communauté des enseignants-chercheurs et des étudiants ait été informée, hein, quelle que soit la qualité de cette proposition. Hein, c'est pas mon problème, mais je suis quand même très inquiète.
Sur le fond, cette formation, l'intersyndicale apparemment était contre, et vous aussi.
Alors, je suis d'ailleurs extrêmement étonnée aussi qu'on parle de l'intersyndicale et que dans la presse, on dit que c'est les syndicats plus les islamistes qui ont fait interdire cette formation. Je crois que c'est complètement caricatural. Évidemment, l'intersyndicale s'est exprimée, mais c'est la grande majorité des enseignants, chercheurs, étudiants, des Parisiens qui a été choquée. Donc, parler seulement des syndicats, c'est une façon pour ceux qui emploient ces termes de déconsidérer cette réaction qui est très large. C'est aussi une façon de déconsidérer l'université parisien. Et ça, je crois que c'est extrêmement choquant. Et si M. Sifaoui veut proposer des formations et s'intégrer dans la formation continue, c'est certainement pas en critiquant cette communauté-là. Et par ailleurs...
Mais attendez, Sandra, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Vous êtes en train de dire que c'est pas l'intersyndicale qui a demandé l'arrêt de cette journée de formation?
Écoutez, moi, je suis pas dans l'intersyndicale ni dans aucun syndicat. On est plusieurs collègues à, de toute façon, avoir protesté, hein, de façon publique par rapport à cette formation, au sujet général, puisque l'Université parisienne a une expertise sur ces questions. Pas de très nombreux enseignants-chercheurs et chercheurs qui travaillent sur l'islam, qui travaillent sur le Moyen-Orient, le Proche-Orient, parisien, a bénéficié de la création d'un poste sur ces questions il y a quelques années. Parisien héberge un réseau aussi de recherche sur ces questions. Donc effectivement, il y a des ressources à Parisien, ce qui fait que on était un peu surpris. Et ensuite, l'amalgame qui a été fait entre nos protestations et le fait qu'on suspende cette formation qui relève de la formation continue et qu'on a découverte en effet récemment, et puis par exemple des événements comme l'interdiction de la venue de Sylviane Agadinsky, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très choquant pour nous, puisque bien évidemment l'Université parisien est un lieu de très grande liberté intellectuelle et de débat, que bien sûr Sylviane Agadinsky est très totalement la bienvenue pour faire une conférence, Et de toute façon, on a des conférences de ce style constamment. On vient de créer un master d'études de genre, d'ailleurs, qui a aussi créé pas mal de remous à l'extérieur. Hein. On a été pas mal critiqués pour ça. On est vraiment pas du tout dans l'esprit complètement caricaturé. Qui est décrit ici comme si Paris était une bande de censeurs. Alors que nous sommes juste des universitaires.
Non, mais là, oui, Philippe Reynaud, vous êtes extérieur un peu à tout ça. On arrive quand même à une situation assez remarquable où il semble que personne n'ait vraiment décidé de cette formation. Personne ne l'a non plus interdite. Il y a eu des protestations, mais il n'y a pas de lien entre la protestation et l'interdiction. Donc, personne n'est responsable de rien. C'est quand même assez surprenant, non ?
Alors, écoutez, moi, je me garderai de commenter la manière dont fonctionne une université voisine avec laquelle la mienne partage des locaux et un passé important et beaucoup de collaboration. Bon, je crois qu'il y a quelque chose qui n'est pas très difficile à concevoir. C'est qu'en effet, la formation continue dans les universités, c'est un département spécifique dont le système de validation des formations n'est pas le même que celui des formations diplômantes. Tout ça, c'est à la fois peut-être un peu abstru pour le grand public et assez simple dans le fond à comprendre, mais je trouve que je ne vois pas très bien quel sens ça a de consacrer à peu près la moitié de votre émission à cette question.
C'était pas prévu comme ça.
C'était pas prévu comme ça, mais ça s'est fait comme ça. Bon, c'est la force des choses. Moi, il me semble qu'il faudrait revenir à un des aspects importants de cette affaire. C'est après tout, ce sont les raisons qui ont été invoquées pour demander la suspension de cette formation. Parce que de toute manière, il y a bien des gens, alors intersyndical ou pas, avec ou pas accord préalable des instances de l'université, etc., mais qui ont estimé qu'il était choquant, scandaleux, ou je ne sais quoi, que cette formation ait lieu dans les locaux d'une université portant, pour des raisons historiques, le nom de Sorbonne. Moi, j'avoue que c'est ça qui me dépasse, parce que je ne vois rien de choquant dans le projet qui a été présenté. Je pense que Monsieur Sifaoui est une personnalité éminente dont on peut discuter les analyses et les positions, mais rien n'interdisait, tel que le programme était conçu, que ces positions soient discutées. Et je trouve tout ça très, très singulier. Alors, ce qu'on dit simplement, c'est que l'université de Paris 1 ne veut pas parler de l'islam politique en tant que tel, ou veut le faire dans un vaste programme dans lequel la question sera non pas noyée mais relayée avec d'autres multiples, etc. Bon, de fait, ce type de programme, en effet, s'il est présenté comme programme de formation continue, n'attirera pas grand monde. Moi, je trouve, si vous voulez, que la règle du jeu dans les choses de formation continue, c'est que ça peut être des sujets ponctuels, précis, limités, qui correspondent à une demande sociale. On peut pas inviter des gens qui seraient des imposteurs ou des gens nuls, mais là c'est pas le cas. Donc je ne vois pas, si vous voulez, je trouve que la position qui a été défendue par mes collègues de Paris 1, y compris malheureusement par Sandra Logier, que j'ai la plus grande estime par ailleurs, est tout simplement aberrante. C'est quelque chose qui, je trouve, montre une dégradation des mœurs académiques, et qui, même si le cas n'est pas juridiquement, formellement le même que celui de Sylvia Nagasinski, ça s'inscrit, je pense, dans la même histoire, qui est une histoire assez lourde de transformation du monde académique français, dont je pense qu'il est effectivement menacé par des forces que je pense puissamment liberticides.
Mmh. Oui, oui. Et comment ça s'explique, pour continuer un peu ?
Oh ben, ça s'explique, vous savez, c'est des choses qui sont, alors, d'abord, c'est des choses qui sont périodiques dans l'histoire de l'université. L'université devrait être un lieu de recherche des intéressés. D'abord, à partir du moment où, comme aujourd'hui, elle est supposée faire des formations professionnelles, etc., ça fait longtemps que nous ne sommes plus dans le modèle humboldtien, qui d'ailleurs n'a jamais été très puissant en France. Mais, nous sommes obligés d'entrer dans des choses un peu diverses. Mais enfin, si on fait des formations, si vous voulez, commerciales ou des formations de psychosociologie, etc., je vois pas pourquoi on ferait pas des formations sur la radicalité islamique. Mais il y a une évolution, mais même à l'époque voltairienne, dans les époques plus désintéressées, l'université n'est pas à l'abri des conflits idéologiques, y compris des courants violents. Bon, on a des multiples témoignages sur l'ambiance du début des années 30 dans les universités allemandes. Les années...
C'est pas une comparaison
innocente, non. C'est pas une comparaison anodine, mais je pense qu'on a effectivement des situations dans lesquelles on a des professeurs qui sont intimidés. On a eu des choses comparables du côté de l'extrême gauche dans les années 70. Je rappellerai, par exemple, que le grand Théodore Adorno, qui n'était pas un réactionnaire, a eu ses derniers mois de métier empoisonnés, comme on dit aujourd'hui, pourris, par des étudiants de l'extrême gauche allemande qui lui reprochaient d'être objectivement conservateur, réactionnaire, de ne pas faire la révolution, etc. C'est des choses qui se produisent périodiquement dans les universités. Je ne vois pas, si vous voulez, je vois rien de spécialement nouveau. Ce qui est simplement peut-être un peu nouveau aujourd'hui, c'est, je trouve, le fait que les autorités académiques ne sont pas d'une vigilance extrême dans la défense des libertés. Elles l'étaient peut-être un peu plus autrefois.
C'est à vous que ça s'adresse, Georges Adan ?
Oui, non, mais je le reçois et je fais mon mea culpa. Je n'ai pas, comme l'a dit M. Fahui, un président omniprésent et omnipotent. Je ne peux pas tout contrôler.
Non, mais la question qui vous est adressée, c'est est-ce que vous avez cédé aux pressions ? Est-ce que vous êtes le défenseur des libertés académiques ?
Alors, d'abord, je voulais dire que ma décision n'a rien à voir avec la qualité de M. Sifawi, hein, qui est un homme de grande qualité. C'était le thème et la façon dont les choses se sont passées qui m'ont pris de court, d'une certaine manière, et qui ont pris de court l'université. M. Sifawi n'a rien à voir avec ça, même si certains... ont voulu régler des comptes avec M. Sifawi, mais là, je ne veux pas rentrer dans ce débat, je le respecte.
Mais pourquoi le thème ? Quel est le problème ?
Les signaux faibles, détection des signaux faibles, etc. Et c'est une question qui est très sensible, vous le savez, qui est très sensible, et qui mériterait de dépasser le cadre de petites formations payantes. Vous avez parlé d'une université désintéressée. Là, il s'agit aussi d'une affaire de sous. C'était payant. C'était payant pour une petite... quantité de personnes, si je puis m'exprimer ainsi. Mais non. Nous, la formation continue, ce sont les grandes formations diplômantes, comme connaissance de la laïcité, comme etc. Ces additifs viennent librement au niveau de la formation continue, mais là aussi, nous n'avons pas un contrôle suffisant. Et la grande leçon de tout cela, c'est que je vais reprendre avec les conseils le fonctionnement de la structure de formation continue pour éviter ce genre de dérive. Je le répète, ce n'est pas Monsieur Sifawi.
Mais en quoi c'est une dérive de parler de...
Parce que écoutez, si vous ne contrôlez pas, et j'assume mes responsabilités, on peut mettre en place des petites formations avec des thématiques complètement négationnistes, par exemple. Avec des thématiques complètement... C'est pas le cas.
De quoi parlez-vous ?
Mais je peux vous dire que...
Et pourquoi vous faites des comparaisons qui ne tiennent pas...
On a fait des comparaisons avec l'extrême-gauche, avec l'université entre les deux guerres, etc. etc. Bon, écoutez, moi je veux bien recevoir toutes les critiques. Je suis en fin de mandat. En plus, je suis totalement libre.
La comparaison qui a été faite par Philippe Reynaud, c'est simplement la comparaison entre des formes de liberté qui sont attaquées.
Je n'ai subi aucune réelle pression. Je ne cède pas aux pressions. J'ai voulu simplement prendre un peu de distance, hein, que vous me croyez ou non, je vois votre sourire narquois, que vous ne me croyez pas. J'ai voulu simplement prendre un peu de distance par rapport à une affaire sensible qui a mobilisé les tensions au niveau de l'université. Je n'ai reçu aucune menace, aucune récrimination de mouvements islamistes ou d'associations musulmanes, etc. La seule chose qui s'est passée, c'est que j'ai senti que cette affaire-là pouvait prendre une proportion à l'intérieur de l'université qui méritait peut-être un peu de recul. Et j'en ai prévenu le recteur, je le répète, alors, et je fais mon mea culpa, je n'étais pas au courant, et j'ai eu tort sans doute, Monsieur Sifawi, vous vérifiez ce livre magique.
Vous êtes rencontré sans que vous soyez au courant. Je voudrais
de mon point de vue.
Ah oui, d'accord.
Si je puis me permettre, sans esprit polémique, parce que la question de fond, Philippe Reynaud a raison d'interroger cette. Je ne considérais pas ça comme une attaque à dominem. J'ai aucune raison.
Pour moi, certainement.
Reconnaissez une chose, c'est que lorsque vous acceptez de signer une convention avec la mosquée de Paris.
Oui.
Pour.
Qui passe par les conseils. Hein.
Lorsque vous signez une convention avec la mosquée de Paris, et vous savez que c'est moi qui devais faire la formation. Vous le savez. Vous le savez. Ça, au moins, vous le savez.
Je le jure sur l'honneur que non, je l'ai appris au mois d'octobre.
Bah, non. Point. Monsieur le Président, ne me dites pas ça. Non, mais je vais me fâcher. Mais, parce que nous étions les yeux dans les yeux. Vous saviez, votre collaborateur nous a dit que c'était moi qui
l'ai fait. On ne va pas revenir là-dessus.
Vous n'avez pas fait attention.
Ne me choque pas. Bien au contraire.
Alors, je vais vous dire une chose. Quand on parle de stigmatisation...
Mohamed Sissaoui finit sa phrase et je donne la parole à Sandra Logier.
Quand on parle de stigmatisation, je vais vous dire que c'est honteux. Pourquoi c'est honteux? Parce que cette formation devait justement apprendre aux non-musulmans à faire le distinguo entre le musulman pratiquant, pieux, tranquille, apaisé, citoyen français par ailleurs, etc., ou résident étranger, totalement paisible, et l'activiste islamiste. D'un autre côté, cette modeste formation devait apprendre à des imams qui sont sous le contrôle de la mosquée de Paris, qui pour la plupart viennent de l'étranger, quelle est la réalité historique de la laïcité à la française, quelles sont les attentes de la société française, sa sensibilité, parce que parfois, il y a des prêches qu'on peut...
C'est une autre formation, c'est ce qui était dans le programme.
Bon. C'est l'histoire des mouvements dits djihadistes. C'est ce qui est considéré aujourd'hui par ceux auxquels vous avez cédé comme étant des éléments de stigmatisation. Parce qu'on ne veut pas en réalité parler des frères musulmans aujourd'hui dans l'université française. On ne veut pas parler du wahhabisme salafiste. On ne veut pas parler d'Arabie Saoudite et son rôle depuis les années 60 dans la diffusion de l'islam politique. On ne veut pas dire que des quartiers en France sont sous le contrôle de certains imams idéologisés à la sauce des frères musulmans. Alors, tout ça, oui, il y a des gens à l'intérieur de l'université française, dont la Sorbonne, qui sont en train de prendre en otage cette même université et par prolongement la société française pour amputer le débat d'un certain nombre d'éléments qui sont à mes yeux fondamentaux.
Mohamed Sifaoui,
Philippe Prénaud. Est-ce que vous considérez par exemple que qu'une formation comme celle que qu'organise Gilles Kepel à l'école normale supérieure relève de cette euphémisation des questions qui se posent à la société française?
Ah mais Gilles Kepel fait un travail admirable depuis quelques années. Ceux qui sont décriés, justement,
dans le cadre d'un grand établissement d'enseignement, si ce n'est pas une université.
Dans l'université française, vous savez très bien que les débats ne sont pas sains ni sereins depuis quelque temps.
Ce que je voulais vous faire préciser, c'est qu'on ne peut pas dire qu'il y a un silence général dans toute l'université.
On est en train de dire qu'il y a des forces toxiques qui sont en train d'atrophier le débat et d'essayer de faire en sorte à ce que la question autour de l'islam politique ne soit pas abordée.
Sandra Lucier.
Excusez-moi, je suis quand même vraiment choquée de ce que j'entends, puisque s'il y a bien un lieu où sont abordées ces questions de l'islam radical, des quartiers du terrorisme, c'est bien à l'université. Hein, Philippe Reynaud vient de le rappeler. Ça a lieu dans toutes sortes d'enseignements à Paris 1. Regardez, là, si vous regardez l'ensemble de la formation et des propositions qui sont offertes aux étudiants et au public, c'est vraiment quelque chose qui existe et qui est traité de façon beaucoup plus sérieuse. Et je dois dire que on a quand même été très nombreux à être choqués par la présentation de cette formation que vous avez commencé à décrire. Hein, quand vous dites, par exemple, que vous allez traiter l'Occident, les espaces démocratiques et la laïcité dans les lieux, et qu'en gros, il y a des communautés en fait qui sont absolument autres et refermées sur un monde, c'est vrai que c'est quelque chose qui paraît caricatural et qui, du coup, a suscité des protestations. Mais surtout, je suis vraiment désolée que Philippe Reynaud vienne à l'appui quand même des déclarations de M. Sifaoui qui critique ses collègues d'une autre université, puisque en réalité, dire que les universités deviennent un espace de terreur de non-liberté, c'est là aussi extrêmement caricatural, c'est tout à fait faux. C'est simplement que dans ces universités s'expriment toutes sortes de courants, qu'il y a une vraie diversité d'opinions, justement.
Il y a tout de même un certain nombre d'incidents qui sont récurrents, pas seulement en France d'ailleurs, sur les campus américains c'est encore plus fréquent. Mais enfin, la récurrence de ces incidents montre quand même que la liberté de l'enseignement n'est pas si claire. Et d'autre part, sur l'islam et sur le radicalisme, on voit bien s'il y a des enseignements, on peut se demander s'ils sont à
dans quelle mesure ils sont vraiment complètement efficaces. Parce que quand on voit ce qui se passe dans la préparation de la manifestation de ce dimanche, quand on voit le trouble que cette histoire a jeté, notamment à gauche, avec des gens qui signent une pétition sans savoir ce qu'il y a dedans, sans savoir avec qui, en se rendant compte après coup que les signataires ne sont pas ceux qu'ils croyaient et que finalement ils vont défiler avec des gens qu'ils ne connaissent pas. On peut se demander vraiment si les leaders politiques et les décideurs sont au courant de ce qui se passe au sein de l'islam et des symboliques.
Vous savez, il suffit qu'il n'ait pas envie de l'être. Raymond Aron disait souvent à propos de telle ou telle personne intelligente qui avait des opinions selon lui aberrantes, disait mais pourtant il a fait des études.
Voilà.
L'université ne peut pas tout.
Toutes ces personnes qui hésitent savent que c'est un débat en ce moment extrêmement piégé. Et on le voit maintenant. Si on critique l'islamophobie, on risque de se faire traiter d'islamiste, comme si l'islamophobie
vous pensez pas que le débat est piégé parce que les gens se piègent tout seuls. Enfin, il y a une crainte de parler des choses qui est quand même remarquable. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire cette émission. J'ai du mal à voir en quoi l'intitulé de ces deux journées de formation proposées par la Grande Mosquée de Paris, qui plus est, était si problématique.
Proposé par moi. Validé par la direction de la formation continue de la Sorbonne. Ce qui est choquant, si vous voulez, c'est que quand on parle, moi j'entends évidemment, il y a une grande rigueur, la fameuse rigueur universitaire. La fameuse rigueur universitaire n'aurait pas amené les gens à ne serait-ce demander des explications aux principales concernées et dire, admettons qu'il y ait un problème sur l'intitulé, ça peut arriver, hein, vous savez, personne n'est détenteur de la science infuse, mais dire, mais peut-être qu'il y a un problème sur l'intitulé. On ne peut pas faire une réunion avec le concerné et dire, tiens, on va peut-être revoir le programme, qu'est-ce que vous voulez exactement enseigner dans ce module que la direction de la formation continue compte vous confier. Il n'y a rien de tout ça.
Là, je suis totalement d'accord avec ce que dit M. Sifaoui.
Mais alors, pourquoi ça n'est pas fait?
Mais c'est ce que j'avais l'intention de faire. Mais ça a pris une telle dimension médiatique. Il y a eu de telles distorsions. Mais bien sûr.
J'ai appris moi-même par votre presse.
Mais c'est ce que je comptais faire. Je n'ai même pas eu le temps de respirer sur cette affaire. J'aurais voulu en discuter avec lui. Et je le dis bien, j'ai le plus grand respect pour M. Sifaoui. Ces productions intellectuelles ont de la valeur et suscitent le débat. Mais à partir du moment où vous êtes responsable d'une grande institution, comme Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui n'est pas comme Paris 2, hein, nous sommes une université très politique. Paris 1 est une université très politique. Paris 2 vit dans un monde un peu à part. Et je le respecte. Nous sommes pluridisciplinaires à l'extrême, avec de l'histoire, de la philosophie, des sciences politiques, des syndicats tout puissants, bien sûr, présents dans le débat démocratique de l'université, et je ne le regrette absolument pas, bien au contraire, c'est ce qui fait notre richesse. À partir du moment où j'ai senti qu'il y avait une sorte de crispation qui pouvait dégénérer, j'ai proposé le report.
Mais dégénérer en quoi, monsieur Haddad?
Mais attendez, je vais vous inviter à des conseils d'administration, vous verrez ce que c'est, monsieur Sifaoui.
Qu'est-ce que vous
voulez dire? Les conseils d'administration se sont emparés de cette question. Le conseil d'administration préalable à ma décision s'était emparé de cette question. Et les conseils d'administration de Paris 1 n'ont rien à voir avec d'autres conseils d'administration qui sont très feutrés, très calmes, très pondéré. D'accord. À Paris 1.
Donc vous nous dites qu'il y a quelques voyous quand même parmi les professeurs.
Je ne les appellerai pas voyous, ils ont leur sensibilité.
Moi je respecte
la diversité.
Ce que vous voulez dire, c'est que les tensions étaient telles au conseil d'administration que vous avez dû suspendre.
Il y a eu des tensions, il y a eu un débat très fort sur ces questions. Voilà. Et il m'appartenait en tant que président, garant quand même de la paix publique à l'université. Alors certains voulaient que j'annule. Je n'ai pas annulé. Regardez les termes. C'est reporté. Et je voulais utiliser ce report. C'est pour ça que j'ai appelé mon ami le recteur Boubaker pour lui expliquer. Il s'est pas insurgé. Il n'a pas crié à l'infamie, etc. Je lui ai expliqué. Je lui ai dit, monsieur le recteur, je veux prendre un peu de temps pour calmer les esprits.
D'accord.
Et discuter.
Je vais vous croire sur parole. Mais est-ce que vous savez au moins...
Faites-moi
Mais je vous pose une question avant. Est-ce que vous savez au moins, est-ce que vos services... vos collaborateurs vous ont dit qu'il y a des associations islamistes qui ont écrit et que le service juridique, votre service juridique, étudiait les termes de la réponse qu'il fallait leur apporter. Surtout, une association en particulier que je ne citerai pas, qui vous a écrit, à qui l'aide recommandée, accusée de réception.
Oui, ça je le confirme. Vous avez raison.
Mais pourquoi vous dites...
Je ne l'ai pas reçue, cette lettre.
Mais pourquoi vous dites...
Je ne l'ai pas reçue.
Mais pourquoi vous dites...
Elle passe par les services.
Pourquoi vous dites dans un journal... Pourquoi vous me faites passer dans un journal comme étant un menteur qui
Mais non, j'ai parlé de moi. J'ai dit que moi, je n'ai reçu...
Donc vous confirmez que vous avez reçu...
Il y a eu une lettre d'une...
D'une association
je connais même
islamiste
pas, oui.
Oui, que je ne veux pas citer.
Pourquoi vous ne voulez pas la citer?
Parce que je n'ai pas envie de leur faire la publicité.
Ayez le courage de le dire.
Attendez, vous avez déclaré plusieurs fois qu'aucune association islamiste n'était intervenue. Maintenant, vous expliquez qu'il y a une association islamiste qui a envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception.
Qui ne m'est pas parvenue.
Vous dites que vous n'êtes pas... parvenu à la Sorbonne. Vous dites que vous n'avez pas cédé aux pressions, puis vous expliquez qu'au conseil d'administration, c'est tellement bardé, vous avez finalement décidé de reporter le...
Bon,
le
je vois bien que c'est le procès d'un président d'université, non, je le veux bien.
Je vous assure que non. Monsieur le Président, je veux savoir. Je juste comprendre.
Je n'ai pas cédé aux pressions.
Une association musulmane vous a écrit à la Sorbonne.
J'ai découvert il y a quelques jours qu'une lettre, effectivement, avait été envoyée à... mon adresse, mais qu'elle n'était pas parvenue à la présidence. Elle n'était pas parvenue, bon, elle a été gérée par les affaires juridiques.
On va devoir arrêter cette émission bientôt, parce qu'on arrive au terme, on est déjà largement en retard, mais on apprend quand même quelques petites choses dans cette émission.
Bien sûr.
Oui, il y a eu tout de même des pressions. Enfin,
non, pas à mon niveau.
Enfin, Philippe Reynaud, je voudrais vous donner quand même le mot de la fin. Est-ce que vous trouvez pas que ces polémiques traduisent une certaine panique dans les milieux, au moins à la Sorbonne?
Écoutez, je suis un peu gêné que vous me donniez le mot de la fin, parce que ça m'oblige à être plus neutre que je ne le voudrais, d'une certaine manière. Je crois, si vous voulez, que nous entrons dans des temps difficiles, dans lesquels l'université sera divisée par des clivages idéologiques, politiques, religieux très très importants, et il faudra s'efforcer les uns et les autres de maintenir les cadres de la civilité universitaire autant que nous le pourrons. Cela dit, je dirais que je suis peut-être mal exprimé, comme on dit, mais moi, je n'ai pas dit que toute l'université française était vivait sous la terreur ou
Rien de
supposé, si vous voulez. J'ai simplement dit qu'il y a périodiquement dans le monde universitaire, en rapport avec ce qui se passe dans la société, quand il y a des passions violentes qui se développent dans un secteur de la société, l'université est un des lieux où naturellement ces passions ont des prolongements et où malheureusement les universitaires étant aussi des intellectuels au sens sociologique, ils ne sont pas insensibles à ces courants.
Merci à tous.
De carbone, environ 3 millions d'années avant Michael Jackson. On peut donc affirmer sans offenser son archevêque que Dieu a la gueule et l'aspect d'un australopithèque.
C'était Signe des Temps, une émission de Marc Wetzmann, assistée de Cyril Marchand, avec à la technique Jean-Guilain Meige et à la réalisation Véronique Villa. Dans un instant, une histoire particulière.
Dieu est amour toujours.
Yeah.